Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamain.
En direct de New York, on est heureux d'être avec vous. C'est le début de la nuit pour vous. Il est 1h40 du matin. Vous êtes même pleinement dans la nuit. Chez nous, c'est le début de la soirée, 19h40 ici en direct de la côte est des États-Unis d'Amérique avec Walid Achachoa. Salut Walid.
Et merci d'être aussi nombreux sur YouTube parce que je vois le chat, il est enflammé et on lit les messages. Nico, il va le faire parce que être aussi nombreux à cette heure-ci là.
C'est un streamer.
Il faut récompenser. Tu
devrais lancer une chaîne Twitch, toi.
C'est en cours de.
Tu pourrais l'appeler Wawa.
Tu penses? Je vais essayer de déposer ça rapidement avant que tu me l'apprennes.
Bon, je pense que notre invité pensait arriver dans une émission football sérieuse. Il se rend compte que ça ressemble à une vieille libre antenne des années 80.
Ah oui, c'est trop. 80, excuse-moi. On est beaucoup plus dans le truc.
Excuse-moi.
Beginning.
Moi je dis 90.
90. Oui, parce que tu viens de Charleroi.
Exactement. Juste à côté, à Antwerp.
Charleroi, terre de basket.
Exactement,
d'ailleurs.
Oui.
Grande terre de basket.
Ah bah oui.
Notre invité.
Lukaku, très bon pivot. Au basket.
Ah oui.
Oui.
Je savais pas.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Faudrait faire un jeu. Quels sont les attaquants qui auraient pu jouer pivot?
Sinatra aurait.
J'avais Dagui Bakary. Ouais. Peut-être un excellent pivot aussi.
Zlatan.
Giroud, il fait la planche. Giroud, c'est une planche.
Peter Crouch.
Non.
Ah, il aurait déposé.
Oui. Non, la Sinatra Traoré de Monaco, tu te rappelles celui qui était
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Il faisait quoi? Il faisait un 95 le mec. Ah,
franchement, Khalidou Koulibaly, je le vois.
Oui.
Olivier Mazé est avec nous. Salut Olivier.
Bonjour messieurs.
On est heureux. Olivier. On t'a écouté Olivier. Récemment dans Stephen Brunch. Ami de Stephen Brun, qu'on salue.
On
doit dormir déjà. Olivier, tu es agent de basketteur.
Ouais.
Tu es de 78.
Exactement.
C'est ça. Donc, on aurait aussi pu faire un film sur toi d'ailleurs. Certains l'ont fait, sur d'autres agents français de basket, car tu as réussi à promouvoir la carrière de joueurs français, nos meilleurs talents, et notamment outre-Atlantique. Il y en a un qui est actuellement concerné par les finales NBA, puisqu'il joue au New York Knicks. Il a peu de temps de jeu, Mohamed Diawara, hein, je précise son nom. Hein. Il a quand même apparu 69 reprises cette saison, en saison régulière, et 6 fois en play-off avec les Knicks, ou 7 fois.
Ouais.
Je crois que c'est ça, Olivier.
Exactement.
C'est un joueur qui est jeune, il a 21 ans, hein, l'avenir est devant lui en NBA. Ouais. T'étais au Madison, t'as eu cette chance hier, tout le monde ne l'a pas eu. Malheureusement, on pense à tous ceux qui pouvaient pas être au Madison Square Garden.
Voilà. Nous, en tout cas, ici, on n'a pas eu
hier soir.
La possibilité.
Ouais. Ouais. Bon, voilà, on a vu ça à la télé, c'est très sympa.
Toute l'équipe.
Toute l'équipe.
S'il y en a un qui y va, ils n'y vont pas, ça
la fout mal.
Heureusement, ça n'arrive pas chez nous.
Exactement.
L'After est une famille.
On est une vraie équipe. On a regardé le match tous ensemble, vraiment tous ensemble.
Dans ma chambre en plus, c'est sympa. Et j'ai payé les repas aussi, c'était merveilleux.
East Village.
Bon, comment il a vécu, comment il vit ces finales? Raconte-moi. Il est presque un peu spectateur. Il n'était pas dans l'équipe, dans le roster hier pour le match 4.
C'est clairement une success story à l'américaine, ce qu'il vit pendant un an. C'est un garçon qui a été drafté, donc arrivé en NBA sur la pointe des pieds l'année dernière. Drafté 51e par les Knicks. C'est un choix qu'on a clairement visé et assumé le soir de la draft parce que il y avait 2-3 équipes qui voulaient le drafter au deuxième tour, mais nous on pensait que New York lui convenait parfaitement dans son ADN de joueur, son style de joueur et ce qu'il pouvait amener sur une équipe comme ça, parce que c'est un mec qui est un vrai potentiel défensif, qui est polyvalent, qui a de la taille, de l'envergure et qui est un facilitateur. Il a toujours fonctionné dans les équipes qui marchent depuis le plus jeune âge, que ce soit en équipe de France, que ce soit en championnat de France. Donc on avait ciblé New York, mais les choses sont allées très vite. Il aurait dû être en G-League, ce qui est la ligue de développement. Très rapidement, il a fait ses preuves. Il a signé un contrat NBA, standard. Wow. Il s'est retrouvé.
Standard, ça veut dire quoi?
Ça veut dire un contrat classique de joueur NBA et pas un contrat de.
Oui, c'est ça. Il a un contrat. Oui, c'est ça.
Voilà.
On peut connaître les chiffres ou.
Bien sûr.
Ouais, le contrat.
À l'américaine,
le contrat. Le contrat minimum pour un joueur comme ça, c'était 1,270 million.
Okay.
Voilà.
C'est ça.
Brut ou net?
Toujours net avant impôt ici.
Ah ouais.
Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'en fait.
Mais il lui reste quoi à la fin?
Bah, t'es à la moitié.
Il est à la moitié.
Ouais.
D'accord.
Mais après.
Mais toi, en revanche, sur les premières années, tu touches quasiment rien, c'est ça, toi?
Ouais, c'est ça.
En tant qu'agent.
Ouais.
Faut attendre 4 ans, c'est ça l'histoire.
Tu touches, mais en fait, tu touches un montant qui est de 2%.
Ah ouais.
Et à la sortie des 4 ans, là, tu pars sur 4%.
D'accord.
Après, là où pour lui, c'est assez exceptionnel, c'est qu'il arrive, finalement, il fait ses preuves, il a l'adhésion du vestiaire, du coach, il se retrouve à être titulaire sur des matchs au Madison Square Garden.
Incroyable.
Il fait 6-7 matchs en tant que titulaire, il a fait des matchs télévision nationale contre les Celtics, 28 minutes.
Ouais.
Ah, des performances de premier choix. Il a fait vraiment une très très bonne partie de saison. Il y a même eu une demande, une sollicitation de la mairie de New York. Il a rencontré le maire de New York en tête à tête. Il y a eu une opération marketing.
Zoran Mamdani.
Exactement.
Très bien.
Pendant l'année, parce que voilà, il était en train de jeûner. Et le maire est musulman également. Ouais. Ils ont voulu faire un truc. Donc ça a été un peu la révélation de l'équipe des Knicks cette année. Là, on arrive sur les playoffs, donc forcément, le coach, avec la pression, a resserré la rotation. Mais bon, entre-temps, il a gagné la NBA Cup, hein, vous l'avez vu,
oui,
qui a ramené 550 000.
Contre les
Spurs. Il est en finale NBA, c'est 800 000.
550 000 par joueur.
Ouais. Et là, quand vous êtes en finale.
La moitié de son salaire annuel, en fait, sur NBA Cup. Ouais. C'est merveilleux, ça.
Et là, sur la finale.
Parce que Moualid, sur la Coupe du Monde, en fait.
Attends, il va dire.
Il fait un mois de Coupe du Monde, c'est 12 mois de ses piges à RMC.
Exactement,
c'est merveilleux.
Exactement.
Attends, il allait dire combien pour la finale? 850 000?
Pour la finale, en fait, quand tu es finaliste, c'est 550 et qu'on la gagne, c'est plus de 800.
Et pour être finaliste, faut avoir une minute de temps de jeu seulement?
Non, t'es dans le roster.
Quoi qu'il arrive.
T'es joueur.
Donc lui, s'il est Knicks qui mène 3-1 face aux Spurs, son sacré champion NBA, il va prendre ça.
Ouais, au final, il aura fait 2.3.
Ça, c'est exceptionnel. C'est comme les joueurs du Paris Saint-Germain, là, les Boli, tout ça, etc. Ils ont pris 1 million, prime de la Ligue des Champions.
Jantou, il a pris total.
Ouais, après, Jantou, il a joué quand même un match. Il y en a qui ont pas. Il avait joué contre la Talenta, je crois, en début de saison. Jantou. Mais t'imagines, c'est fort, ça, c'est extraordinaire. Les mecs, ils ont 18, 19 ans, ils prennent une barre.
Après, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup là, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, là, tu nous parles à l'américaine, bien que toi et ton joueur soient français. Et aujourd'hui, tu nous dis, voilà, il a pris 2.3. Moi, j'aime bien parce que c'est décomplexé. Money is money.
Mais en fait, tout est tellement public et médiatisé ici que tu pourrais même pas le cacher. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous on vit à l'échelle du basket français, où les clubs essayent un petit peu cas à cas de masquer les chiffres, ça n'est pas possible ici. Tout est tracé, publié dans les rapports de la NBA, dans les bases salariales qui sont envoyées à toutes les équipes. Donc tu peux pas cacher les choses. Donc c'est quelque chose qui est complètement assumé ici. Et c'est sur un système qui. La grosse différence, c'est qu'on est sur un système, la NBA, qui est rentable. Toutes tes équipes gagnent de l'argent. Donc à partir du moment où un système est bénéficiaire, t'as pas peur d'en parler.
Non mais tu te rends compte à quel point nous qui suivons le foot au quotidien, et notamment le football français, qui est même encore jusqu'à quelques temps une grosse économie quand même du football, et où il y a absolument aucun club, à part peut-être le PSG, qui gagne de l'argent.
Si, il y en a quelques-uns qui ont une gestion saine quand même, mais pas énormément. Pas énormément.
Dans le vert.
Oui, le Stade Rennais, pas le Stade Rennais. Il y a 2-3 clubs français qui génèrent un peu d'argent, mais pas énormément non plus. On va parler de ton expérience au Madison hier. Tu l'as pas découvert toi hier, mais c'était un moment historique. On l'a raconté sur RMC toute la journée. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'enthousiasme des Américains ou pas pour la Coupe du Monde de football. Tu viens combien de fois par an aux États-Unis?
Moi, Olivier, je suis là tous les mois et demi.
D'accord.
Puisque j'avais Gershon Yabusele qui était à New York puis à Chicago. Donc, du coup, je viens très souvent. Sincèrement, jusqu'à maintenant, j'ai pas senti l'enthousiasme sur la Coupe du Monde. Je sais pas si c'est parce que l'attention est déplacée sur les finales NBA. C'est une finale qui est historique, hein. Les Knicks ne sont pas allés en finale depuis 27 ans. La dernière fois qu'ils ont gagné le titre, c'était en 73. Donc tout le monde attendait ça. C'est le plus gros marché médiatique. Et en plus, il se trouve que c'est une finale entre les Knicks et puis un peu la nouvelle star de la NBA, qui est Victor Wembanyama. Donc l'attention, elle est énorme sur cet événement-là. Ils ont aussi les finales de hockey en parallèle qui font beaucoup moins de bruit. Je pense que lorsque ça va s'arrêter en NBA et que le véritable coup d'envoi de la Coupe
vraiment
va se lancer.
Même si on parle de soccer?
Je pense
qu'on n'est pas au pays du soccer.
Les gens vont s'intéresser d'abord aux États-Unis, à l'équipe américaine.
Je pense que demain, ça bouge, demain, États-Unis. C'est quoi le match déjà?
États-Unis-Paraguay.
États-Unis-Paraguay, 21h, tu penses que ça bouge?
Un petit peu, mais pas encore, pas encore énormément. Ouais, je pense que tant que la finale NBA n'est pas finie, je pense que la tension médiatique, elle est clairement.
Donc en fait, s'il y a un match 7, on est dans la merde, quoi. Enfin, en termes d'engouement.
Pire que ça.
Ouais.
S'il y a un match 6, le match 6, c'est le jour de France-Sénégal.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Oui, mais à 20h30.
Ouais.
Le France-Sénégal est à 15h. Il y a un petit décalage quand même. Mais t'as raison. Ils seront déjà dans leur match au Madison pour le match 6. D'autres y seront peut-être aussi d'ailleurs. Ils auront cette chance-là d'être sur le match 6 de Madison Square Garden.
Mais ça va tourner par contre. Ce sera d'autres personnes.
Non, n'attendent pas. C'est à mon nom. Je peux pas. C'est dangereux.
Pourquoi c'est dangereux? Est-ce qu'ils ont demandé ton identité?
Écoute, moi je t'ai dit, Adam Silver, il me connaît. Il va pas apprécier. Reste avec nous, Lévi. On a plein de questions à te poser, bien sûr. La question, c'est est-ce que l'autre côté des États-Unis, côte ouest, il y a quand même un début d'enthousiasme, de ferveur. Nico Pelletier est sur place à Los Angeles. Salut, Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico.
Ça va Nico, t'es en forme? Belle énergie sur le salut quand même. Très belle entrée dans l'émission.
Ah ben là, moi il est 16h40. Donc je suis en milieu de journée.
Par contre, Nico, nous on parle que anglais ici. Au moins l'entrée c'est en anglais, quoi.
Ah ben non, moi je fais pas d'entrée en anglais parce que je suis sur une radio française.
Wow.
Et je vais pas afficher mon accent exceptionnel en anglais.
Nico, t'es où là? T'es où?
Fais-nous rêver, il a raison, là, carte postale.
Là, alors carte postale, je suis devant la fan zone de Los Angeles, qui est dans le stade historique, le Muséum Colisée du côté de Los Angeles. C'est magnifique à voir cette fan zone où il y a énormément de supporters mexicains qui sont venus voir ce match de tout à l'heure. Très forte communauté mexicaine ici à Los Angeles. On est à seulement 2 heures de route de Tijuana où on était samedi dernier. Donc voilà, c'était vraiment... Tu l'as posé ta question tout à l'heure, Nico, mais c'était vraiment une ambiance Coupe du Monde que l'on a vécue tout à l'heure autour de ce match entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors, je peux vous dire que derrière le match de la Corée du Sud, tout le monde est parti de la fan zone. Hein. On n'est pas resté
tout
le match
encore,
de la Corée du Sud.
Ça démarre en 2h10.
Non, mais il n'y aura plus personne. Hein. J'ai discuté avec des supporters tout à l'heure et ils m'ont dit non, on ne va pas rester pour le match de la Corée du Sud.
Mais je vais même te dire, Nico, avec le recul, moi, je suis plutôt content que ça ait commencé avec le Mexique comme ça. Dans ce stade mythique, un vrai pays de football.
Voilà, pays, peuple de foot, exactement.
Ça m'a rappelé des souvenirs, le Mexique.
86, toi.
Non, pas 86, parce que malheureusement, j'étais pas né, même si c'est la transmission du daron. Mais la réalité, c'est que même Mexique-France, Naïsna, Mexique-Pays-Bas 2014, voilà, même le Mexique qui tape l'Allemagne, là, avec leur histoire, là, d'avant-tournoi. Le Mexique, il y a toujours eu quelque chose dans les Coupes du Monde qu'on a suivi. Et moi, je sais pas, déjà, le jeu qu'ils ont envoyé m'a plu.
Ah bon?
Stade, les occasions.
Je te déçu par l'ambiance. Hein. On m'a vendu un stade Azteca en fusion, en folie.
Il n'était pas en fusion, mais
c'est un bon jambon, plus grand.
J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça coloré. Franchement, moi,
c'est ce que disent les touristes.
Non, mais par rapport aux États-Unis, qui auraient fait, par exemple, les États-Unis, Paraguay, si on nous explique qu'il n'y a pas d'engouement particulier par rapport à New York, etc., je préfère que ça démarre de cette manière.
États-Unis, Paraguay, ouais, t'as raison. Je comprends ce que tu dis. Mais tu as tous les droits. C'est aussi ta radio, Walid.
Non, mais je sais pas, j'ai l'impression de dire une dinguerie.
Non, c'est pas une folie que tu racontes.
Oui.
Elle se sera plein demain soir. Évidemment, Nico.
Non? Quoi? Non. Il y a encore des billets à la vente pour ce match des États-Unis face au Paraguay. Ce soir en France, demain soir pour la côte ouest des États-Unis. Non, il y a encore des billets à la vente. Je regardais ça tout à l'heure lors du match du Mexique. Il y a encore beaucoup de billets à la vente. Alors ils sont très très chers. Hein. Il y en a qui tournent autour de 7 000 ou 8 000 dollars pour voir le match de demain des USA.
Mais moi ça va vite m'énerver.
Non,
ça.
Il y a encore des places.
Ça
va vite m'énerver parce que déjà nous on est là, on cherche des places. Déjà moi je cherche des places. On a envie d'aller au stade.
C'est vrai.
Et les mecs ils ont été chercher une grille tarifaire hors de prix pour qu'à la fin si ça nous fait une Roland Garros bis là avec des stades vides, ça va vite me gonfler.
Bien
sincèrement
sûr. Olivier, t'es surpris, tu savais que ça allait venir. Ouais, Nico, vas-y, fini après Olivier.
Il y a ce que disait Olivier tout à l'heure est très intéressant parce qu'il y a énormément de supporters mexicains avec qui j'ai échangé tout à l'heure qui me racontaient ça, c'est qu'ils me disaient pourquoi il n'y a pas d'ambiance pour le moment du côté de Los Angeles, parce que c'est vrai qu'on l'a pas du tout ressenti depuis une semaine, mais c'est qu'il y a tout le monde déjà qui pense à la NBA, mais il y a aussi plusieurs finales nationales qui se jouent et qui sont retransmises à la télé et ces gens-là se rassemblent devant ces finales nationales qui sont bien plus importantes que le soccer qui est moins connu, même si à Los Angeles le soccer est quand même bien suivi. Mais voilà, ça explique aussi peut-être le manque d'engouement au début, c'est ce que racontait tout à l'heure Olivier. Et j'ai posé la question à Sanjay Sunjan Takumar, qui est journaliste au Guardian et qui m'a un petit peu expliqué pourquoi il n'y avait pas d'ambiance autour de cette Coupe du Monde.
L'ambiance va dépendre des villes. À New York, l'accès au match est compliqué, il n'y a pas de fan zone. Dans des villes comme Kansas City ou Philadelphie, l'ambiance sera plus conviviale et l'accès plus simple. On ne retrouvera sans doute pas l'atmosphère de 1994, mais les bars, restaurants et la fièvre de la Coupe du Monde seront bien au rendez-vous.
Non, mais de toute façon, la Coupe du Monde aux États-Unis, ce pays qui est quand même très particulier par son étendue, par aussi la mixité de sa population, mais aujourd'hui, c'est un sport de latino. C'est un sport pour les latino-américains, c'est un sport pour... Moi, aujourd'hui, je ne vois que des maillots des équipes sud-américaines dans les villes...
Première ambiance qu'on a vue, c'est tout à l'heure en base des Mexicains, comme à Los Angeles.
Non, mais même,
Mais ce sont des Américains. Hein.
J'avais les Brésiliens dans mon hôtel tout à l'heure.
Ouais, ou les Colombiens. Il y a énormément de maillots de la Colombie.
Parce que le maillot est superbe aussi.
Hein. Oui, le maillot est magnifique.
4 ans, tu vois fuir les maillots de la Colombie.
Non, mais t'as vraiment des Colombiens, t'as les Équatoriens, enfin bref, t'as que les Sud-Américains qui vraiment sont passionnés par ce sport.
En fait,
c'est pas très grave, c'est comme ça.
Ça veut un peu dire quand on dit
culturel.
Que les États-Unis n'est pas un pays de soccer, en fait. Non. Pas un pays de football, parce qu'il y a une grande partie de la population. population qui adore le football ou le soccer.
C'est un pays de football, en fait, de football.
Il y a aussi un élément peut-être à... Il y a aussi un élément peut-être à prendre en compte là quand on est à Los Angeles, que la ville est étendue, qu'il faut une heure pour faire un trajet entre par exemple la fan zone et le stade, le SoFi Stadium qui est à quelques kilomètres d'ici. Quand ça roule mal, ça ne pousse pas aussi les gens à se rassembler comme on peut le connaître dans d'autres compétitions, comme on peut le connaître à l'Euro ou lors des Jeux Olympiques. Donc ça peut possiblement aussi avoir une explication là-dedans, parce que de faire de la route pour aller juste se rassembler autour d'un match de football alors que d'habitude on le suit pas en temps normal ici, ça peut aussi être un peu contraignant pour les gens.
Et il y a autre chose, c'est que les États-Unis sont un sport où les différents, comment dire, les différentes compétitions.
C'est un pays, tu veux dire?
Non, sont un pays où les différentes compétitions de sport ne sont pas des sports de nation. C'est des sports de ville. C'est-à-dire que pour eux, quand il y a la NFL, c'est la National Football League, mais pour eux, ils sont champions du monde, en fait. Parce que ils ne font pas de compétition avec l'extérieur. Il n'y a pas de derby.
Les Knicks ou les Spurs seront champions du monde. Voilà.
Non, mais ouais, même, je veux dire que.
C'est ce qu'avait dit Noah Lyles, non? Il n'y avait pas une polémique avec Noah Lyles qui avait dit champion du monde de quoi, il avait dit?
Exactement. Il avait mis en cause ce statut-là, en fait. Parce que lui se comparait. Moi, si je gagne 100 mètres, je suis champion du monde, j'affronte tout le monde.
Champion du monde, ouais.
C'est pour ça que, à part le hockey, où il y a une grosse rivalité avec.
Très fort sur l'omnisport.
Où il y a une grosse rivalité avec le Canada.
De 10 ans, moi.
Et à une époque avec l'URSS. Mais sinon, il y a très peu de rivalité.
On est sur l'histoire, là, à main droite.
Non, mais c'est vrai.
Ah, là, on convoque l'URSS. Là, les mecs, ils prennent une dimension aux États-Unis.
Stéphane Bern et Laurent Luya sur la table. Attention, c'est très chaud.
Je finirai par dire que la NFL, c'est un sport.
C'est ce soir, sur France 5.
C'est un sport où il n'y a quasiment que les États-Unis. Le basket pour les Américains.
Il y a le mouvement de bras de Yves Calvi.
Il n'y a que les États-Unis. Et même pour le hockey, c'est pareil pour eux, il n'y a que les States.
Je suis ému parce qu'en plus derrière lui vous le voyez pas, mais allez sur Afterfoot TV.
Je vous parlerai pas de la crosse.
Non, c'est bon, ça va, t'en fais trop là.
Tu vois, c'est toujours pareil.
On a arrêté depuis deux minutes d'écouter. Hein.
Ouais. Non, mais il y a le drapeau américain derrière Kevin qui le représente assez bien. C'est magnifique. Olivier, tu voulais réagir là-dessus notamment sur la tarification, la billetterie.
Ouais, tu parlais de la politique tarifaire qui est délirante. Malheureusement, je suis pas surpris parce que vraiment, le fonctionnement de la billetterie ici aux États-Unis, ils te vendent pas une rencontre sportive, ils te vendent un spectacle. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, t'as pas le même rapport au prix du billet, puisque t'as l'impression de vendre un spectacle. Nous, en fait, en Europe, souvent, tu te dis que la réussite d'un match, ça dépend de l'aléa sportif. Est-ce que ton équipe, elle a gagné et perdu? Les gens, ils viennent ici, ils arrivent une heure au stade avant, ils consomment sur place, ils achètent des trucs pour les enfants.
Ouais, c'est la fin d'expérience
poussée à l'extrême.
Oui, mais
je ne vis pas des places à 5-10 000 $.
Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé sur le Madison Square Garden pour les matchs à domicile des Knicks, c'est délirant.
Oui.
C'est-à-dire que les prix d'entrée pour 4 000 $, t'étais tout en haut du Madison Square Garden et tu dévissais les ampoules.
Hein. Ouais, c'est ça.
une place à peu près bien placée. C'est une année d'études pour un de vos enfants à l'université.
Mais le reste de l'année, c'est combien de places au Madison, à peu près mi-hauteur, quoi, dans la
alors
salle.
Ça dépend des affiches, justement.
De prix.
Non, mais tu joues Portland, par exemple.
Tu joues Portland, tu vas avoir une place aller à 300-400 $.
Oui, voilà. Donc là, c'est plus raisonnable.
Mais c'est déjà une dinguerie. Mais
c'est déjà énorme pour un des 82 matchs sans enjeu la saison régulière.
L'abonnement au Madison, il est à combien?
Suivant là où t'es placé.
Une place mi-haute, pas ouf, mais correcte.
Catégorie 3, quoi.
Ouais.
Catégorie 3, à mon avis, tu peux être sur l'année, sur les 41 matchs à domicile, t'es facilement à 20K.
Je me suis posé que t'es à 20K. T'es à 20K l'abonnement en milieu de stade, quoi.
Mais tu veux que je te dise un truc? Moi, l'histoire de New York Spurs, bon, ça me fait rire. Bon, j'ai regardé un peu la grille tarifaire. T'as des places à 70 000 €, c'est n'importe quoi. Mais tu te dis qu'à la limite, vu le storytelling autour de New York, tu viens de parler des 30 ans, etc., une fois dans sa vie, peut-être que, en fait, le mec à 60 ans, il reverra plus ça. À la limite, ces mecs, ils sont pétés d'oseille. S'ils veulent aller s'envoyer, ils s'envoient, tu vois. Parce que il y a un truc historique. Les mecs, ils ont mangé leur pain noir pendant 30 ans. Donc, ok.
50 ans,
à la limite. Mais là, la Coupe du Monde, États-Unis, Paraguay, où tu me parles de Bosnie-Herzégovine, Suisse, ou généralement donné
Qatar-Suisse.
Qatar-Suisse, tu vois des places à 1 500 €, 2 000 €. Si à la fin, ton stade, il est vide, à quoi ça sert,
ça
en fait?
Ça n'a aucun sens.
C'est-à-dire que moi, je veux bien l'histoire de oui, on va remplir. Si à la demande, et si les stades sont pleins à la fin de la compétition, comme à Roland-Garros, très bien, les gars, ok. Vous avez mis des prix, les mecs, ils ont payé. Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ils achètent pour revendre derrière à des prix encore plus exorbitants pour que au final tout le monde se regarde à 16h en disant mais en fait qui y va en fait dans nos stades, et bah pour le rayonnement de la Coupe du Monde c'est un problème, et surtout pour ceux qui entre guillemets peuvent pas mettre 7000 mais ils peuvent mettre 500 mais en fait au final il y a plus de place à 500 et donc ils peuvent pas aller
mais ce qui est d'ailleurs dingue c'est que sur
leur tif, c'est quand même déjà
sur le match 3 beaucoup de fans des Knicks sont pleins du manque d'ambiance au Madison car les prix trop chers, les habituels fans les plus énervés au style ne pouvaient pas payer leur ticket. On avait une ambiance quasiment atone. Ouais, certes, il y avait Trump
après,
aussi.
C'était le match Trump.
Voilà. Bon, c'est vrai.
Que ça a compliqué énormément l'accès au stade, etc. Et je pense qu'il y a des gens que ça a peut-être découragé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je m'apercevais d'une chose. Il y a énormément de places qui sont achetées par des grosses compagnies, des fonds d'investissement, etc. Et qui derrière, après, les redonnent sur de la relation client. C'est pas tout le monde qui vient qui peut payer 20, 35
euros. C'est ça, en fait. C'est que là, la cave, là, tu rentres pas sur le temps.
C'est ce qui m'est arrivé hier. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais une accréditation, j'ai eu la chance de pas payer parce que je travaillais, j'ai fait un portage, tout ça.
Mais
voilà.
Pourquoi t'as pas été voir le
mais
match?
T'as payé ton repas.
J'ai payé mon repas, Nico, exactement. vous savez, combien ça m'a coûté? Moi, ceux qui me suivent, vous êtes nombreux sur les réseaux, bien sûr.
On va pas te plaindre.
Popcorn.
Ouais.
Hot dog. Saucisse en plastique, on va pas se mentir. C'est du plastoc.
Ouais. D'accord.
Un soda.
C'était pas bio.
D'accord. Un soda, c'est 50 centilitres. Combien ça m'a coûté, ça?
35 euros.
Ouais. Combien tu dis, toi?
Franchement,
moi, dollars, 51, je dis.
40 $45.
51 $, les amis.
Ah ouais?
C'est un hot dog, des popcorn.
Et une bière.
J'ai sucré ou salé? Parce que je peux te juger très rapidement et
ça salé, déception totale.
T'es en popcorn salé?
Non, je suis en sucré.
Ah, d'accord, ok, j'ai eu peur, j'ai eu très peur.
Mais les Américains, ils m'auraient du salé. Bon, peu importe. Là, on divague.
Ouais, mais c'est bien, c'est un
51 $, ça fait 45 euros, c'est ça? Mais toi, t'es pas surpris, toi. C'est le Madison. C'est comme à l'aéroport, en fait. Hors du Madison, ça m'aurait coûté 35 $.
Mais
Madison. Parce que Thomas Edison, c'est prestige, tu payes plus.
Les mecs, ils ont envoyé 20 000 $, tu crois qu'ils sont à 50 près?
Ouais, t'as raison.
Ils sont pas à 50 près.
Mais on dit que c'était une bière et pas un soda.
C'était une bière.
D'accord, ok, très bien. Déjà mensonge, déjà.
Ouais. Mais là où c'est
très prestige, c'est horrible.
Non, mais humainement,
non, tu peux pas courir. Non, je pense aux enfants qui nous écoutent à 2h du matin.
D'accord, ok.
Je peux pas les inciter à boire l'alcool.
Je peux comprendre.
Pas la promotion de la bière.
Par contre, les sodas, faire la promotion du soda, ça pose un problème.
C'est du soda light.
C'est du soda light.
Très light. Excuse-moi, Olivier.
Non, mais là où hier, c'était presque. C'était déroutant, c'est qu'en fait. Là où on était installé, il y avait donc des familles de joueurs, etc. Mais tu avais des gens à côté qui avaient payé leur place. Et ça, c'est des places à 25-30 cas par personne.
Mais Spike Lee paye pas. Timothée Chalamet, il paye.
Spike Lee paye sa place au Garden depuis.
Si, bien sûr.
Il a pas envoyé 50 cas hier.
Il a un abonnement. Okay, et ensuite, après, donc tu as un prix préférentiel sur les matchs de play-off. Mais un abonnement à l'année courtside comme ça, c'est un demi-million de dollars.
Ouais.
Un demi-million de dollars.
Mais Spike Lee, c'est le fan numéro 1. Il a même dit.
Ça fait 40 ans qu'il est courtside, mais il est au bord du parquet.
Mais tu vois, parce qu'en fait.
En gros, c'est un sponsor, quoi.
Le gars, c'est un
ambassadeur.
Oui, c'est un booster, quoi.
C'est un booster. Et de l'autre côté, aller au Garden en courtside pour n'importe quel acteur, chanteur, etc., c'est un outil de promotion.
Bien sûr.
T'as 3-4 plans de coupe sur toi, t'es dans l'écran géant, tu passes
et
sur
en fait,
NBC, ESPN.
T'es tendance, parce que t'es là, t'es tendance.
Taylor Swift est venue, je pense qu'elle s'en fout du basket, elle est venue, Taylor Swift.
Non, elle sautait partout hier.
Elle était folle, elle sautait partout.
Fallait voir, en fait, l'excitation de toutes les stars qui étaient présentes hier. Parce
après, certains
se
sont joués un peu aussi, quand même, mais bon, voilà.
Mais en fait, il y avait un dénouement qui était incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le match hier.
Non, mais c'est horrible, arrête. J'ai envie de chialer.
Les Knicks sont menés de 27 points à la mi-temps.
J'ai envie de chialer.
C'est horrible.
Et donc là, c'est quoi? C'est fini, là? C'est choc de Wembanyama et de Jaren Fox?
Non, ils vont prendre le match 5.
Ils vont prendre le match 5? Non,
pas.
Attention, là il prend un gros coup derrière la carafe.
Ils vont prendre le match 5.
Moi, j'ai 30 ans de NBA derrière moi. Attention, à quand tu perds.
À toi, t'as vu Patty Wing débuter au Knicks.
J'ai vu ça de Mayer.
Jeremiah.
Patty Wing était avec moi hier soir, justement, après le match.
Ah, moi, je suis un grand fan des Spurs depuis Patty Mills. Et qui, en sortie de banc, faisait des ravages.
Mais je vais te dire un truc, Walid. On était avec Patty Wing dans l'ascenseur, avec Mohamed, pour descendre à un moment au parking. Et lui-même, il disait, c'est probablement le match le plus fou que j'ai vu au Garden de ma vie.
Il faut nous appeler.
Ah ouais, Patty Wing.
En fait, le truc, c'est qu'ils perdent de 27 points à la mi-temps, c'est le plus gros écart en finale.
Okay.
À ce moment-là.
Patty Wing, c'est pas un plat, hein, c'est pas Patty Wing.
Non, c'est pas des Wings, c'est des pâtes.
D'accord, c'est Patty Wing, c'est une légende.
Je fais Nico Pelletier qui est encore avec nous, Nicolas. On revient dans un instant.
Patrick et Wing.
Et en fait, si tu veux, je peux te dire que les gens qui ont payé 2 fois 30K Ouais, ils sont à moins 27 à la mi-temps, tu les vois, ils sont décomposés.
Moi j'étais aux toilettes.
Moi j'ai vu des gens qui étaient, mais ils étaient
horribles.
T'as vu des gens sortir ou pas?
Non. En fait, j'ai vu des gens être vraiment dans le bad, dans les couloirs, à se dire, mais waouh, qu'est-ce qu'on fait là?
C'est un scam.
Et ensuite, les gens reviennent là parce que tu dis, ok, t'as quand même lâché un gros billet, je vais assister à la mise à mort jusqu'au bout.
Ouais. C'est intéressant. Ouais. Donc, s'ils sont contents, c'est non seulement pour les Knicks, mais parce qu'ils se disent, bon, j'ai pas lâché 20K pour rien, non, aussi pour ça, quoi.
Non, mais c'est exact. Énorme. Ce match, c'est the American Dream.
Oui, non, mais c'est vraiment ça. Mais
c'est
tu incroyable. Sais quoi?
Comme le centre commercial derrière nous, là.
Les gens, à la fin, ils disaient, en fait, bah, c'est un scénario Broadway, quoi. Ouais. C'est un show Broadway hier soir.
C'est ça.
C'est le truc dramatique où, à la base, bah, tu te fais éclater et tu te dis, OK, ce que tu pensais être une grosse fête à New York, prendre les deux à domicile, être champion à domicile, ça tombe à l'eau. Tu te fais démonter. Et puis, deuxième mi-temps, le match s'inverse complètement. Les Knicks, se remettent à défendre, mettent des paniers, les Spurs se liquéfient un peu. Et du coup.
Un peu beaucoup.
Beaucoup. Moins 27, moins 20, moins 15. Et puis quand tu arrives à 10, 12 points, ah, là le bâtiment se réveille. Sincèrement, moi, j'ai jamais vécu une ambiance comme ça.
Oh là là là, quelle chance.
J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dingue.
Si Nico avait pu y aller.
Oh là là, je m'en veux tellement. Je suis resté dans mon hôtel, premier étage sur le parking.
Ça, c'est vrai, c'est fou. Après, on n'avait pas l'oseille pour y aller, c'est normal.
Non, c'est normal, on peut pas. Nous, on peut pas.
On peut pas, on n'a pas le droit, etc.
Encore une fois, aidez-moi, on n'aurait pas été sans Nico.
Alors, il y a un truc, et je me tournais vers Nico aussi. On a fait l'expérience tout à l'heure. Nous, des États-Unis, l'argent, on paye tout le temps. On paye tout le temps. Et la FIFA nous fait payer parce qu'on est sur le côté américain, on va faire payer les gens comme on le fait depuis 40, 50, 60 ans. On va en centre commercial en face. Il y a un péage pour entrer dans le centre commercial.
Comment
il
ça,
fallait payer non, c'est pas le droit.
Il paye le parking.
Non.
À la défense, tu payes le parking.
C'est le péage.
Ah, tu payes le
Nico,
péage.
Nico, il connaît ça, Pelletier, il va me le dire. On a payé 6 dollars pour avoir accès au centre commercial. Pour avoir le droit d'acheter dans un commercial et après on a payé le parking pour sortir du centre commercial. Ouais.
Mais ça c'est fou ça.
Non mais ça c'est complètement dingo quoi. Tout est payant. Nico, vas-y.
Je vais vous raconter une histoire. J'étais donc à la fan zone qui n'est pas donc le stade officiel où vont se dérouler les matchs de la Coupe du Monde, la fan zone de la FIFA. Pour me garer à côté de cette fan zone, j'ai payé pratiquement 50 dollars la journée. Il y a des parkings un peu plus loin qui vont jusqu'à 80 à 100 dollars la journée pour recevoir les voitures de ceux qui vont dans la fan zone. Donc voilà, ça vous dresse un petit peu le portrait. Je sais que dans certains stades du côté de New York et de Boston, certains parkings montent jusqu'à 245 dollars pour passer la voiture lors des matchs de la Coupe du Monde. Donc c'est aussi un exemple à prendre en compte.
Bon, et vous savez que le trajet, il y a un trajet en transport pour venir de Manhattan
au MetLife.
Habituellement, c'est 12,50 $. Ouais. Bon, là, je crois qu'ils l'ont passé à 100 ou 125.
150, ils l'ont rebaissé à 85 dollars, je crois.
Mais juste la démarche.
Mais pourquoi Mais c'est prendre les gens pour des. Enfin, c'est plus que pour des cons, quoi. C'est marcher sur les gens, en fait.
Non, c'est vraiment c'est un outil de business à travers ça. La ferveur populaire, ils s'en moquent. Enfin, c'est délirant, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10 un trajet de transport pour venir au stade.
Voilà. Bon, Nico, avant de te libérer, il faut rappeler qu'il y a un moment important demain sur RMC, Rotten sans flamme, interview de Paul Pogba, que tu as rencontré aujourd'hui notamment, Nico.
Ouais, on l'a vu du côté de la fan zone. Il était présent avec son sponsor, qui est aussi le sponsor de la Coupe du Monde. Et donc, il a répondu aux questions de Jérôme Rotten et de Benoît Boutron pendant une douzaine de minutes. Il évoque tous les sujets, l'équipe de France notamment. Il revient notamment sur Ousmane Dembélé. Je vous proposerai de l'écouter demain soir sur RMC.
On n'a pas d'extrait, un petit truc qui tombe du camion, là, Nico, quand même, là.
Maxabolin, dans mon oreillette, a monté un extrait, mais je suis pas sûr.
Bien sûr, Max Abolin. C'est un truand, Max Abolin.
Max, il fait un début de compétition par rapport à Nico Germain. Il lui met une tempête. Mais vraiment, c'est faut le dire aux auditeurs.
Non, Max Abolin,
il y a pas photo pour l'instant. Hein.
C'est moi qui ai voulu qu'il soit là.
C'est Cador.
Max Abolin, c'est très fort.
Ouais.
Écoutez, il a produit des podcasts excellents qui s'appellent Panthéon, RMC Sports, sur les plateformes.
Qui est l'animateur?
C'était moi. Max, on peut jouer le son de Pogba? Magnifique, Max. C'est parti, Paul Pogba.
Est-ce que cette génération, sur le papier, trouve qu'elle est meilleure que celle de 2018?
Oui. Oui. Le meilleur joueur du championnat allemand, meilleur joueur du championnat français, meilleur joueur du meilleur buteur du championnat espagnol. Aujourd'hui, non. C'est sûr que je pense que au niveau papier, ils sont beaucoup plus forts. Après, je sais pas, je pourrais pas dire au niveau groupe parce que ça, c'est très, très, très important dans des compétitions comme ça. C'est le groupe qui joue et aujourd'hui, bon, ils ont montré qu'ils pouvaient très très bien jouer ensemble aussi. Mmh. Et au niveau des changements, quand tu enlèves un joueur, surtout devant, attention.
Et bien, il veut pas devenir consultant.
Et bien, merci la pioche de nous filer après trois jours de débat. Hein.
Non, mais à la rentrée, il veut pas. Il y a pas un petit pigeon de Antoine Barnier. Il va pas nous gérer ça. Contre,
vous avez remarqué qu'il a pas dit que Kylian Mbappé était le meilleur joueur du championnat espagnol.
Meilleur buteur.
Il a dit meilleur buteur.
Parce qu'il connaît un peu le foot. Quand même. Lamine Yamal est le meilleur.
Non, mais c'est très bien.
De la Liga.
Et c'est très intéressant ce qu'il dit. On va en parler dans deux minutes ensemble. Nico, ce sera demain soir diffusion de l'entretien chez Jérôme dans Rotten sans flamme, 18h. Moment important, exceptionnel. Paul Pogba qui prend la parole enfin après son année ratée, on peut le dire. Ainsi, sans se tromper, à l'AS Monaco, Nico.
Ouais, c'était vraiment un bon moment qu'on a passé avec Paul Pogba, avec Jérôme et avec Benoît Boutron. Donc, ça a retrouvé à 18h, donc ce soir en France, sur RMC.
Et Nico, t'as trouvé un sandwich de qualité comme ce que je t'avais fait découvrir à Rabat ou pas encore aux États-Unis?
Alors, j'ai cherché, parce mais pour l'instant, rien ne dépasse ce sandwich-là.
Avant tous les matchs au Maroc, à Rabat, on se faisait un petit sandwich. Poulet, oignon, poivron avec Nico Pelletier à 30 dirhams, donc l'équivalent de 2,50€. C'était succulent. Et derrière, on se faisait des matchs incroyables. Je suis pas sûr qu'on retrouve le même rapport qualité-prix ici.
Tu n'auras pas la même expérience.
Je pense pas. Mais bon, la fin d'expérience, apparemment, est géniale.
C'est absolument génial. Merci Nico. Nico qui fait un très bon début de Coupe du Monde aussi, on n'en a pas douté. Hein. Ah oui. Il était à Tijuana il y a deux semaines déjà. Quasiment.
C'est le meilleur Nico des RMC, ça on n'en doute pas.
C'est un très bon Nico.
Ouais, exactement.
J'étais pas au Madison hier soir, tu vois. J'ai pas eu cette chance-là.
On en veut à ceux qui sont partis comme ça, sans prévenir personne. Merci Nico.
Merci Nico.
Bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. On fera pas de pause là tout de suite, puisqu'on veut parler, il y a un gros débat.
Parce que t'as explosé le chronomètre apparemment.
Non, c'est parce que ce qui est bien, c'est que la nuit, on n'a pas de figure obligatoire, de pile obligatoire. On peut parler comme ça, indéfiniment, comme tu fais très bien depuis à peu près 4 ans que tu travailles à RMC, d'ailleurs, Walid. Hein.
Ah, mais il faudrait qu'on fasse ça la nuit, en fait, nous, Génération After.
Je viens de recevoir un tweet là, l'After en pleine nuit, c'est extraordinaire, ça. Je suis rentré dans ma Coupe du Monde.
Bah oui.
Terminer les conducteurs, les débats intitulés, comment la vie tranché de Kevin.
En plus, on n'a pas Jimmy Brown dans l'oreillette qui nous castre.
On va faire venir Brunson de
son prénom
Jalen. Ah, excuse-moi.
1-0. Ouais, on peut faire un quiz final NBA ou pas? Tu l'as dit, mais il était plus vite que toi quand même.
Final 2013 NBA.
Oh là, non, ça j'ai pas ça.
Final 2016.
Miami.
Ça j'ai pas.
Miami OKC. Okay, si.
Tout à fait.
Non, 2013, c'est.
Je sais pas.
Non, c'est Spurs, Miami, je crois.
Le malin.
C'est 2012.
Olivier, c'est tout ça. 2016, une des plus grandes finales NBA d'histoire, 2016.
Tu mets une colle.
Le Cleveland Golden State.
Merci. Évidemment. Dernière fois qu'il y a eu 3-1.
Oui. Ben, Cleveland Golden State.
Et 4-3.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Le 5 de départ de Cleveland à l'époque.
On fait une pause. On va faire une pub finalement. Et on va revenir dans un instant.
T'as pas J.R. Smith?
J'ai LeBron.
T'as pas LeBron?
J'ai Dwayne. T'as pas, tu parles de Miami là?
T'as pas de Miami? Irving.
Tu parles
non,
de
Miami? Cleveland.
Le pivot de Cleveland.
Tristan Thompson.
Oui. Tristan Thompson, bien évidemment.
Non, l'autre, celui qui.
Kyrie Irving. Le pivot.
Non, il y avait comment il s'appelle le mec qui pouvait shooter à 3 points, qui était un pivot, qui a joué à Brooklyn Nets aussi.
Kevin Love.
C'est pas un pivot.
Il y a un gars qui te parle dans l'oreillette, toi.
Je te jure que non. J'étais branché NBA, moi.
Sur les WhatsApp de Stephen Brun, regarde là, c'est chaud.
Stephen Brun, il dort là. Il a un match de tennis à 8h du matin.
Stephen Brun.
Non, mais.
Bon, en tout cas, 32-16 ouvert. Donc vous nous appelez, participez à l'intégral After Foot avec Walid, Kevin.
On passe un très bon moment.
Et Olivier Mazé, qu'on est heureux d'avoir. Olivier, en plus, tu peux rester encore un peu avec nous?
Oui.
Parce qu'on veut parler aussi de tes joueurs, Nadir Hiffi. Le prince de Paris.
Ah, bien évidemment.
C'est ton joueur?
Oui, tout à fait.
Pourquoi il n'est pas encore là avec nous?
Qu'est-ce
là? Pourquoi il n'est pas avec les Nets là-bas dans la
bien
salle
évidemment.
Là
ça ne saurait tarder, j'espère.
Ah oui.
Waouh.
Wow. Wow.
Grosse info là. Reprise, CM.
Waouh. Reprise.
Home du site.
Waouh. Reprise. C'est quoi les gros sites basket là?
Chez nous?
Trash Talk.
On peut faire le buzz.
Trash Talk. Il y a Basket Time aussi, notre podcast quand même.
Gros Basket Time. Très fort.
Très très gros Basket Time. J'aime beaucoup.
Il y a même un compte Instagram.
J'aime beaucoup Pierre Dorian à la présentation.
Oui, c'est très bien.
Très très bien.
Très bien.
Frédéric Weiss.
Très bien, Pierre Dorian. Il aime le basket, mais il est fait au talent, ces podcasts.
Exactement.
Sans vraiment travailler, en fait.
Un peu comme toi.
Voilà.
Un peu comme toi.
En escroc.
Ouais, exactement. Il faut le dire aux auditeurs, on est payé ce soir. Et on sera payé pendant 3 semaines. Et c'est ça qui est fort. Bien évidemment.
Et si vous restez avec nous, vous saurez à la fin des 3 semaines combien nous sommes payés.
Non, si t'es un vrai Américain, tu dis combien t'es payé.
Tout est transparent ici.
Bah oui.
Ouais, c'est pas l'Américain. Moi, je préfère pas.
Je prends 150 euros.
Non mais ça c'est horrible.
La demi-heure.
Ça vous mangeait dans la Covid là.
Par contre, attends, MVP des finales, Cleveland de Golden State.
Cleveland Golden State, MVP.
Ah,
ben c'est LeBron.
Non, mais celle de
2016 moi là.
Non, celle d'avant, Iguodala.
Ah, André.
André Iguodala.
Dédé.
Ouais. Où jouait André Iguodala avant Golden State?
André Iguodala.
Il joue à Denver. Ouais. Eh, je suis calé, oui, moi. En fait, je suis calé.
Si tu poses les questions que tu veux avec les réponses que tu veux, ah, c'est oui, facile, en fait.
Mais,
attends,
sur le tennis, t'es calé.
Il
n'y a pas de souci.
Non, non, sur l'NBA, c'était qui les tours jumelles des Spurs dans les années 90?
Ben, c'était Tim Duncan et Robinson.
Bravo.
Mais bien évidemment, mais l'histoire des Spurs, mais tu comprends pas ou pas? Tu comprends pas, mais avec qui tu parles?
Qu'est-ce que ça veut dire, les Spurs?
Les Spurs, c'est. Ça, j'ai pas.
Les quoi? C'est quoi ta question?
Tu l'avais.
C'est quoi ta question?
Vas-y. Non, les... Ça veut dire quoi, les Spurs?
Non, les Spurs, je sais pas. J'ai pas.
Ah, les Spurs, c'est les prons.
C'est voilà.
Les prons des chaussures de cow-boy. Bon,
ok, d'accord. Ça, j'ai pas, ça. Malheureusement, la culture.
Olivier, hein, revenons à un truc un peu plus sérieux. Ouais. On va parler de Pogba dans un instant. Ça déclare fort. Ça déclare fort. T'as pas de pub. Pas de pause, en tout cas. On dit pause, désormais. Donc, Nadir Ifi, avec toi. Yabush Sele, qui est à Chicago, désormais. Son avenir?
Il veut clairement rester. Ouais, alors, bon. Les Bulls sont une équipe en complète reconstruction. Ouais.
En perpétuelle reconstruction.
Depuis peut-être 15-20 ans. Mais non, écoute, ils ont changé le coach à Chicago, ils ont changé le general manager, donc tout a été dégagé. À voir quelle direction ils vont prendre par rapport à la construction du prochain effectif. Maintenant, Gershon veut s'installer et veut rester en NBA. On a fait ce pari il y a 2 ans, après sa saison au Real Madrid et ce fameux dunk sur LeBron James au JO de Paris.
On y était.
C'était dans la salle ?
On a mis 500 euros.
Non.
On a 500 euros la place pour être tout en haut. Ouais. Mais on a vécu ce moment.
Mais ouais, c'était un moment incroyable.
On a vécu ce moment.
Ouais. Et donc, le dunk sur LeBron qui lui permet, entre guillemets, de réouvrir à la porte de la NBA. Il fait une super saison à Philadelphie l'année dernière. Il signe donc à New York cette saison. Donc, j'avais Gershon et Mohamed. La saison s'est pas passée comme il le voulait à New York. On a fait ce transfert à Chicago. Maintenant, il a énormément de demandes en Europe, mais lui, il veut se fixer en NBA.
Est-ce qu'il sera champion ou pas?
Oui, il aura la bague si jamais New York est champion.
Et il y a un regret d'être parti ou parce que moi j'ai pas suivi la saison.
Il jouait pas.
Non. Il n'aurait pas été dans les plans.
Qu'est-ce qui se passe avec Gershon?
Chacun son tour peut-être.
Je pose une question, Kevin. Doucement.
En fait, le truc c'est que. C'est toute la complexité de la NBA. T'as des garçons qui jouaient pas du tout en saison comme Jordan Clarkson qui se retrouve à jouer un temps correct en finale. Gershon arrive, il sort d'une campagne équipe de France. Il est un peu fatigué. Il arrive à contre-coup physiquement et puis tu sens tout de suite que cette franchise-là, elle est en pression de résultats tout de suite. Donc en fait, t'as des joueurs qu'il faut faire jouer beaucoup pour garder leur adhésion dans le vestiaire. Donc lui, bah derrière, ça s'embraye pas de la bonne façon. T'as un garçon comme Mohamed qui répond à des missions au début, des missions défensives. Ils font gonfler son temps de jeu. Le coach se dit, bah écoute, si je dois ouvrir mon banc, c'est sur un mec qui a un potentiel pour l'avenir. Je pense que ça se dirige comme ça vers Mohamed. Moi personnellement, ayant les deux dans l'équipe, si on m'avait dit au début d'année que Mohamed Diawara jouerait plus que Gershon Yabusele, qui serait starter 6-7 fois, qui ferait des matchs à 30 minutes et que Gershon ne jouerait pas, j'y aurais jamais cru. Donc c'est pour ça que Gershon est un tel compétiteur que peu importe ce qui se passe maintenant, il est content d'être allé à Chicago et d'avoir joué et montré que c'est un joueur NBA. Donc il n'y a pas de regret particulier. Maintenant, par contre, il veut rester en NBA. Oui.
Bon.
Il faut aller au Spurs, non, à côté de Wemby.
Et ça, ce serait un fit qui est parfait, ouais.
Et juste une question, moi.
Vas-y, après, on reparlera foot, hein, et de Paul Pogba.
2026, notamment. On leur remonte dessus, les Américains.
Oh, 2028,
c'est Los Angeles. C'est une très bonne question, là.
Bah, on remonte dessus ou pas?
Sincèrement, je pense que l'écart se réduit considérablement. Vous avez bien vu, la finale des JO, elle joue pas non plus, il n'y a pas vraiment d'écart. Il y a un coup de chaud de Stephen Curry qui leur permet de créer la
avec
distance.
Avec ses célébrations iconiques.
Ouais, bien sûr.
Incroyable.
On y était.
Voilà. Mais, faut savoir que 28, il y a un changement de génération sur l'équipe américaine. Il y a des mecs qui étaient là, qui ne seront plus là, des icônes. Qu'est-ce que va faire LeBron, Stephen Curry, KD, Kevin Durant, et à l'avènement d'une nouvelle génération d'équipe de France avec des tauliers, Gershon.
Même l'émergence d'un Maxime Reynaud, par exemple, incroyable.
Oui, Maxime Reynaud, évidemment, Victor sera dans son prime.
Donc, Nadir peut-être en équipe de France.
Nadir probablement en équipe de France. Des garçons que je représente comme Strazel. Enfin, il y a des mecs Strazel, qui sont tous jeunes et qui montent en puissance. Ça veut dire que je pense que l'écart va encore se réduire.
Le prix du billet
à Los Angeles,
France, États-Unis. Finale JO basket.
Non, là, ça
pourra. Là, c'est plus que. On est d'accord.
Ça pourra pas dépasser les.
Pas forcément plus que Madison. Pas forcément.
Je pense pas que ça ira plus qu'au Madison parce que ce sera aussi un événement olympique.
Des Français, quoi.
Et donc, en tant qu'événement olympique, il y aura quand même des limites.
Oui.
Là où le Garden, ils font ce qu'ils veulent, quoi.
Font ce qu'ils veulent.
C'est vrai.
Olivier, on s'est régalé. Merci
à
la fin des tours.
Merci à vous, monsieur.
Toi qui es dans la Chrysler, je crois, Building à Manhattan, tu viens de New Jersey chez nous. C'est comme si tu vivais, je sais pas, à Saint-Germain-des-Prés et que tu venais au Kremlin-Bicêtre. Merci.
Et on salue
le KB, la famille.
Et on salue 80 buts, il y a un très très bon kebab qui s'appelle, oui, bien évidemment, qui s'appelle La Boule, juste à côté.
Tu devrais écrire un livre touristique sur les kebabs autour de Paris, parce que tu les connais tous.
Alors, toutes ces petites adresses-là, je suis incollable. Je suis injouable là-dessus. Tu sais, j'ai beaucoup de défauts. J'ai beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes.
Est-ce que tu as le kebab de sa mort?
Non, je ne l'ai pas malheureusement.
Ah bah voilà.
Tu nous diras, tu nous en verras.
Vous écoutez, l'After Intégral Foot. Hein. Ouais. Avec Moïse Cherchon, Kevin Diaz. Coupe du Monde, pardon. Oh là là. Coupe du Monde, on est fatigué évidemment. Il est 20h19.
Ah non, moi je suis en pleine forme.
Il est 2h20 du matin.
Moi j'ai la République tchèque contre qui déjà?
Corée du Sud.
Corée du Sud, je suis à bloc.
Apparemment, des places se vendent à 5 euros sur le parking.
Ah ouais, d'accord, ok.
T'as 3 joueurs de la République tchèque?
Bien évidemment. Darida, Patrick Schick, Koufal, Souček.
Ok, tu les as.
Mais
Corée du Sud.
Enfin, tu travailles
quand même. Non, au moins 2 Corée du Sud. Ton joueur phare.
Woodminson, the goat.
Ah, t'as juste the goat avec Woodminson.
Ouais.
Ah, d'accord. Donc,
il m'a parlé aussi.
Son Heung-min.
Ouais, non. Wang de Wolverhampton, tu l'as pas.
Mais si, je les ai. Wang de Wolverhampton qui a joué en France.
C'est bon. Merci, Olivier. Olivier Mazé était avec nous sur RMC. Bon retour à toi. On se revoit. Tous les deux, on peut se revoir sur match 6, hein, c'est un match 6.
Avec grand plaisir.
On se voit courtside, d'accord. Il y a Ben Stiller aussi qui sera là.
En espérant que vous recevrez Mohamed Diawara, champion NBA, dans quelques jours.
Alors, tu nous l'amènes, hein. Il a sa place ici. Et quand tu prends l'ascenseur avec Pate Wing, pense à nous. Appelle, mets-le nous à l'antenne, Pate Wing, et puis on pourra faire un truc en direct. Merci beaucoup.
Merci, messieurs.
Merci beaucoup. Dans un instant, cette phrase de Paul Pogba, quand même, qui va faire réagir certainement. L'équipe de France 2026 est plus forte que l'équipe de France 2018, sur le papier. En tout cas, ça pose plein de questions. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut être championne du monde, qu'elle a ce point favorite? Et est-ce que vous êtes d'accord simplement avec cette déclaration de Paul Pogba? Restez avec nous, on va débattre avec Walid et Kevin et vous, 32-16, venez. Vous êtes encore plus de 2000 en direct sur YouTube. C'est incroyable ce qu'on vit aux États-Unis. C'est le rêve américain sur RMC.
Come on!